Vous écoutez RTL.
Mais d'abord la curiosité avec Sidonie et Thomas.
Oui, salut Stéphane, je vous traite pas de poubelle, hein, ni de jacuzzi, silhouette, chauvin, sandwich, mais tous ces noms communs étaient à l'origine des noms propres. On en parle dans un instant.
Et tout de suite, la chanteuse aux 30 millions de disques, la saga Mylène Farmer dans la curiosité. Denis Bonnec.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle semaine de curiosité sur RTL et on est super contents. Ça va Sidonie ?
Ça va très bien Thomas, salut les curieux, vous le savez, on aime les sagas musicales dans cette émission et on commence tout de suite avec Mylène Farmer.
Mylène Farmer qui vient donc de sortir un nouveau titre, Rolling Stone, premier extrait d'un album qui fera l'événement forcément. Bonjour Benoît Cachin.
Bonjour.
Soyez le bienvenu.
Bienvenue. Merci. Dans la curiosité, vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste de la chanson française. On disait 30 millions de disques vendus depuis le début de sa carrière, ça la place où dans le Gotha des chanteurs et des chanteuses ?
En tête des chanteurs des années 80. C'est-à-dire que si on prend les chanteurs qui ont commencé dans les années 80, Étienne Dao, Rita Mitsouko, Marc Lavoine, ceux qui restent, hein, parce que beaucoup ne sont plus là, elle est vraiment au-dessus de tout le monde. Après, si on fait dans l'ensemble de la chanson française, évidemment, les yéyés surplombent tout le monde. Quoi.
Parce que Johnny, plus de longévité, lui, forcément aussi.
Même si on prend les 30 ans de carrière de Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Sheila ou même Dalida, c'est beaucoup plus important.
Quand même, Mylène Farmer, il y a quelques records, 16 fois numéro 1 au top 50, le record du nombre de disques de diamants, mais on ne va pas s'abreuver de chiffres, Sidonie.
Ah non, il y a des tubes qu'on a envie de réécouter et de comprendre, découvrir les histoires derrière, par exemple avec cette chanson. Contrefaçon, cette chanson qui est sortie fin 1987, quand et comment elle a été écrite ?
Alors en fait, elle a été écrite, c'est un peu une blague au départ, parce qu'elle était en vacances dans le sud de la France avec une amie photographe, Elsa Tria. Et cette amie, Elsa, était fan de Sylvie Vartan et elle écoutait en boucle Comme un garçon. Et
donc Mylène,
voilà, un tube des années 68. Mm-hmm. Et Mylène, un peu excédée, elle dit tu me saoules avec ta Sylvie Vartan, tu vas voir, moi je vais t'écrire aussi une chanson comme un garçon, etc. Donc elles sont mises toutes les deux au bord d'une piscine et pendant les vacances, et elle a écrit cette chanson qui a des résonances avec l'enfance de Mylène Farmer, puisque elle a raconté plus tard, non pas cette anecdote avec cette amie, mais elle a dit qu'elle avait écrit cette chanson puisque quand elle était petite, on la prenait pour un garçon, et au point que le concierge de son immeuble lui avait dit un jour : « Ah, mais Mylène, c'est très joli comme prénom pour un petit garçon. »
Et donc, la musique, qui l'a composée, la musique?
Alors,
de son
ça, c'est Laurent Boutonnat qui est arrivé le soir, en fait. Il a vu ses paroles et il a composé d'une traite la musique de Sans Contrefaçon, qui a été un tube énorme pour Mylène.
Et puis, il y a aussi une histoire sur l'intro de cette chanson qu'on réécoute rapidement. Histoire que vous racontez, Benoît Cachin, dans votre livre Mylène Farmer, inspiration, publié chez EPA. Il y a une anecdote avec cette photographe, justement.
Oui, voilà, parce qu'elle, Mylène s'amusait là pendant ses vacances à prendre une voix de petite fille tout le temps, voilà, comme ça. Bon, c'était pour rigoler.
Les gens en allant faire les courses aussi.
Eh ben voilà, c'est Elsa, donc son amie, qui lui a dit t'es pas capable de faire les courses avec cette voix de petite fille. Donc elle l'a fait. Elles en ont beaucoup ri, s'en sont amusées, et peut-être comme un clin d'œil, quand elle a enregistré cette chanson qu'elle avait écrite en compagnie de cette amie, elle a fait le début de la chanson avec cette voix de petite fille.
Mais c'est fou Benoît Cachin, parce que vous nous expliquez comment un tube Sans Contrefaçon, on l'a tous écouté, on a tous fait des chorégraphies dessus, même Thomas Hugues, j'en suis sûr. Elle est née vraiment hyper facilement. Est-ce que c'est le cas de toutes les créations de Mylène Farmer? Elle crée facilement?
Non, pas forcément. Après, vous savez, l'histoire des tubes, c'est assez étonnant, parce qu'il y a des tubes, des auteurs vont mettre des semaines et des semaines à créer leurs chansons. Et puis certains tubes, d'ailleurs Comme un garçon de Sylvie Vartan, a été écrit sur un coin de table en 10 minutes. Donc c'est très très compliqué, on n'a pas en fait le secret. Il y a autant d'histoires que de tubes.
On évoquait l'enfance de Mylène Farmer. Vous en avez parlé, ce côté garçon manqué. Elle est née Mylène Jeanne Gauthier au Québec, septembre 61. C'est quoi son environnement familial?
En fait, son père était expat. Hein. Il est ingénieur. Donc, il construisait un barrage dans la banlieue de Montréal, une toute petite ville qui s'appelle Pierrefonds. Et donc Mylène est née dans une famille aimante, avec un père donc qui travaillait comme ingénieur sur le barrage.
Plutôt une fois bourgeoise que, comme famille.
Oui, plutôt bourgeois. Voilà.
Avec de la musique dans la maison.
Alors là, c'est l'énigme, puisque Mylène dit qu'elle ne se souvient absolument rien de son enfance, hormis la neige et le goût du sirop d'érable. Donc c'est tout ce qu'elle a lâché en fait depuis ses interviews de 1984.
Ça veut dire qu'on ne sait pas comment elle découvre la musique, la passion pour la danse et la musique?
Pas du tout. Pas du tout, on ne sait pas du tout. On sait juste qu'elle reste à peu près 10 ans au Québec. Après, le barrage est fini. Les parents reviennent en France, à Ville d'Avray, exactement.
En banlieue parisienne.
En banlieue parisienne. Et Mylène reprend ses études, voilà, jusqu'en terminale, où elle va quitter l'école au bout de 3 jours.
Ah, c'est la terminale la plus courte de l'histoire, en tout
exactement.
Cas. Elle rêvait de devenir comédienne, mais dans quelle pub a-t-elle joué à ses débuts? Surprise à venir sur RTL.
RTL.
La musique sur RTL, c'est ça. Des tubes. RTL.
Et des standards.
Et tous les week-ends, du live.
On aime la musique sur RTL. Est un vilain défaut.
Christelle est prête à tout. Pour rien, pour tout.
RTL. Denis Bonnec, Thomas Hugues.
C'est la chanteuse qui vend le plus de disques en France, Mylène Farmer, qui cartonne encore une fois avec son nouveau titre Rolling Stone. On découvre ses secrets avec le journaliste Benoît Cachin. On est en décembre 1979, vous nous avez raconté que Mylène est en terminale. Ça va être très court, hein, puisqu'elle y reste 3 jours et elle file s'inscrire au cours Florent. Qui va-t-elle rencontrer dans ses cours de théâtre?
Alors en fait, c'est pas décembre, hein. C'est septembre, hein, 79.
Ah, septembre, oui.
Et oui, parce qu'elle reste que 3 jours.
Oui, c'est sûr.
Et donc très vite, elle va se demander ce qu'elle peut faire et elle se dirige vers la comédie. Donc elle s'inscrit au cours Florent où elle va côtoyer Anne Roumanoff, Vincent Lindon par exemple, et elle va suivre les cours du cours Florent comme tous les élèves.
Elle veut devenir comédienne.
Elle veut devenir comédienne, quoi. Elle sait pas trop, hein. Elle a envie d'être dans l'artistique, mais c'est pas un but vraiment ultime. Et donc pour survivre, hein, quand même, elle fait des pubs. Elle fait des pubs dans les années 80, dont certaines sont restées mémorables.
On en a retrouvé une, un extrait d'une pub pour le loto. On va en écouter un court extrait, puis vous le raconterez après.
Permettez. Biceps 47.
47.
Poignet 18.
18.
Alors, la voix flûtée qu'on entend au début, c'est la voix de Mylène Farmer.
Exactement.
Vous pouvez nous décrire cette pub?
En fait, c'est l'histoire de 3 copines qui sont sur une plage et Mylène va prendre les mensurations d'un culturiste qui fait voir ses muscles sur la plage, et elle donne les numéros à ses copines qui cochent les
sur
cases du loto jusqu'à un moment donné où ils arrivent autour de poitrine, et là
ça rentre pas dans les cases.
Donc elle laisse en plan le culturiste un peu hébété.
Mais avant de faire beaucoup des publicités, Mylène Farmer,
oui, elle en fait quand même quelques-unes, hein. Elle fait, je sais pas si je peux citer les marques, mais
allez-y,
bon,
allez-y.
Elle en fait pour Ikea, elle en fait pour la Caisse d'Épargne, elle en fait pour la lessive Chat alors, le slogan qui est bien connu, c'est elle qui le disait. Donc en fait, elle fait ça pour vivre, hein, tout simplement, jusqu'au moment où elle va passer ce fameux casting avec Laurent Boutonnat et Jérôme Dahan.
Et comme beaucoup de jeunes comédiens font de la pub pour vivre. D'ailleurs,
exactement.
Ikea, vous citez Ikea, on en parle demain, on va raconter la saga Ikea dans la curiosité après la mort du fondateur. Et donc, elle devient chanteuse, Mylène Farmer, après avoir passé un casting. Celui qu'il a choisi, c'est Laurent
Boutonnat.
Il l'a raconté au journal télévisé, je crois qu'on disait Antenne 2 à l'époque.
Oui.
On cherchait quelqu'un au moment où on avait fait cette chanson avec un ami qui était Maman à tort. C'est une chanson un peu spéciale qui se passait dans un hôpital psychiatrique d'une petite fille. Et le jour où Mylène est arrivée, elle était parfaite, quoi. C'était le personnage.
Parce qu'elle avait l'air un peu pervers ou pas?
C'était pas tellement pervers, c'est plutôt psychotique, je dirais. Quelqu'un d'un peu
renfermé. Une sorte d'ambiguïté, quoi.
Oh oui, très bizarre, mais ça a été elle tout de suite, quoi. Même avant de l'entendre chanter. Quand maman
dit deux, elle m'oubliera. Antenne 2, une interview de Noël. Ma mère, Benoît Cachin, oui. C'est pour la sortie de ce premier disque, Mylène a choisi son nom de scène. Pourquoi Farmer? Oui.
Alors en fait, elle a beaucoup aimé un film de 1982 qui mettait en scène la vie de l'actrice américaine Frances Farmer, qui était incarnée à l'écran par Jessica Lange, et une actrice qui évidemment a eu une vie très compliquée avec des triomphes, mais aussi qui finira en hôpital psychiatrique, internée par sa mère.
C'est sa vie qui a inspiré Mylène Farmer.
Je pense l'actrice. Qu'elle a été assez fascinée, ouais. par cette vie. D'ailleurs, sur son premier 45 tours, elle dédie le 45 tours à Frances Farmer et à Louis II de Bavière, deux personnages qui ont connu la gloire et qui vont finir internés en hôpital psychiatrique. Donc voilà, elle a une certaine fascination pour la folie.
Le premier grand tube de Mylène Farmer, deux ans après Maman a tort, c'est Libertine. Alors moi je me souviens du clip, c'est vrai qu'il avait marqué les esprits ce clip, pourquoi?
C'est le premier grand clip français, c'est-à-dire qu'en 83 il y a Thriller de Michael Jackson, et il n'y a pas l'équivalent français en fait à Thriller. Il faut attendre 1986 avec Libertine pour avoir un clip digne de ce nom, qui est carrément un moyen-métrage, un court moyen-métrage. Et en fait, ils ont eu une excellente idée, parce que Libertine, quand le disque sort, c'est pas du tout un tube, hein. C'est juste Bertrand Lepage, qui était l'agent de Mylène Farmer, qui a l'idée, pour la première fois, de projeter le clip dans un cinéma des Champs-Élysées aux journalistes, comme un film en fait. Et là, ça va partir tout de suite comme une traînée de poudre. Et le single va être un énorme tube pour Mylène, mais grâce à l'image, en fait. D'autant plus qu'elle a complètement changé son look.
Elle devient rousse. La curiosité continue sur RTL pour Mylène Farmer. Les années 90 vont être marquées par des tubes musicaux, ça vous le savez, mais aussi un bide au cinéma.
Bon, et des tubes, elle sait toujours en faire. On écoute le dernier en date, Rolling Stone.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
5, il est de mon droit. 6, de tout toucher. 7, je m'arrête pas là. 8, je m'amuse.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La saga Mylène Farmer dans la curiosité avec le journaliste Benoît Cachin. Libertine donc sort en 86. Elle est rousse, oui. Et ce n'est pas un hasard.
Non, parce qu'il fallait vraiment concurrencer les deux grosses vedettes de l'époque, c'est-à-dire Jackie Quartz dans une moindre mesure, et surtout la première vendeuse de disques dans les années 80, Jeanne Masse. Donc Jackie Quartz, la blonde, Jeanne Masse, la brune. Il fallait vraiment que Mylène se détache.
Mais elle va encore un peu plus loin, Mylène Farmer, parce qu'elle est rousse et elle est ultra sexy. C'est la femme qui assume son érotisme.
Tout à fait. Et en plus, ce qui est très important, c'est que dans Libertine, qui illustre la chanson Libertine, elle incarne Libertine. Donc, elle devient ce personnage un peu sulfureux. Il faut vous rappeler quand même, dans le clip, les garçons s'en rappellent qu'elle apparaît nue.
Mais oui,
même les filles, vous savez.
Donc,
quand on est jeune et qu'on découvre ça, c'est incroyable.
Voilà, c'était assez...
Et en plus, elle monte à cheval.
Chacun
ses fantasmes, mais bon.
Exactement. Non. Donc, elle installe... vous avez raison, elle installe un personnage un peu sulfureux, quoi. Voilà, la rousse incendiaire.
Mais est-ce qu'elle l'est dans la vie, d'ailleurs?
Ah, ça, j'en sais absolument rien.
Pas.
Voilà. C'est vrai, on n'en sait rien?
Non, on sait pas. Elle est tellement discrète sur sa vie privée qu'on ne sait pas du tout.
Mari, enfant, on en sait quoi de
ça? Oui, elle a un compagnon depuis 15 ans qui est Benoît Di Sabatino, ça, tout le monde le sait, qui est un réalisateur, un producteur de dessins animés.
Des enfants?
Ça, on ne sait pas.
Non,
du tout.
Mais c'est impossible de ne pas savoir si une aussi grande star a des enfants ou
non,
pas.
Non, officiellement, elle n'a pas d'enfants.
D'accord.
Ça doit être vrai alors.
Du coup, on va rester côté business,
côté
musique et carrière dans les années 90. Ça commence par le plus gros tube. Tiens, on va commencer par le plus gros tube de sa carrière, c'est Désenchanté. Plus gros tube. tube du printemps et d'été 91. On prête à cette chanson un sens politique?
Alors oui, on peut prêter, parce qu'en fait il y a une résonance avec le climat social de l'époque qui était un peu compliqué avec la cohabitation, etc. Il y avait beaucoup de grèves, en particulier des infirmières et des étudiants. Donc il y a eu on a un peu associé Désenchanté, mouvement de foule, en plus avec le clip, assez révolte. Mais bon,
elle Mylène a revendiqué, Mylène
pas du tout. Au contraire, elle a dit, moi je ne veux absolument pas qu'on associe mes chansons à un mouvement social, pas du tout.
Oui,
mais c'est une année très
un
particulière, 91, hein, oui. Parce que c'est son plus gros tube, mais c'est aussi le moment où il y a le drame chez Polydor dans sa maison de disque en fin 91.
Que se passe-t-il?
Où en fait il y a un fan qui assassine le réceptionniste de Polydor parce qu'il veut voir Mylène Farmer. Donc il arrive chez Universal et il veut absolument rencontrer Mylène Farmer. Le réceptionniste lui dit mais Mylène Farmer n'est pas là, elle ne vit pas là, et le garçon tire sur le réceptionniste qui est mort.
En fait il vient armé, c'est-à-dire que sa cible, oui, c'était peut-être Mylène Farmer.
On ne sait pas, c'était sûrement quelqu'un de pas très très bien dans sa tête. Mmh. Donc ça a été un moment compliqué pour elle, parce que plus gros succès avec Désenchanté, et en même temps ce drame qu'elle va évoquer, mais très très longtemps après, c'est quelque chose de très très dur encore maintenant pour elle.
Mylène Farmer qui a voulu faire du cinéma aussi dans, oui, cette décennie 90, et c'est pas son meilleur souvenir, pourquoi ?
Non, en 94, donc, sort le premier film de Laurent Boutonnat, le premier long métrage qui s'appelle Giorgino, avec en vedette Mylène Farmer qui joue le rôle d'une autiste. Et le film est un flop total avec 25 000 entrées la première semaine, autant vous dire que rien. Et en plus, ils se font assassiner par la critique. C'est-à-dire, le public ne suit pas, mais la critique non plus.
Parce qu'elle joue mal, ou le film n'est pas très intéressant?
Non, elle joue mal, on ne l'entend pas. Elle doit dire deux mots sur trois heures de film, donc on peut difficilement juger de son, ouais, talent d'actrice. On va voir ça là au mois de mars. Mais
pourquoi on va voir ça là au mois de mars?
Parce qu'il y a un film qui sort où elle a un second rôle. Elle n'est pas la vedette, elle a un second rôle, le film de Pascal Laugier, Ghostland, un film d'horreur, voilà, qui sort le 16 mars, qui va être l'événement, évidemment, pour les fans, c'est l'événement du printemps.
Et qui vient d'être primé, je crois, ce film.
Exactement,
Ghostland.
Exactement, au festival de Gérard Mer, il vient de recevoir trois prix, dont le prix du public, ce qui est très important.
Hâte de découvrir ça.
Mylène Farmer a aussi fait quelques duos mémorables. Tiens, on écoute l'extrait de son dernier avec Sting, Stolen Car. Et on vous raconte l'histoire de cette chanson dans un instant sur RTL.
Et puis dans la curiosité, vous découvrirez aussi tous ces noms propres devenus des noms communs, du préfet Poubelle au contrôleur des finances Étienne de Silhouette, en passant par la cantatrice Nelly Melba.
La curiosité est un vilain défaut.
1. Maman a tort. 2. C'est beau l'amour. 3. L'infirmière pleure. 4. Je l'aime.
Avec le journaliste Benoît Cachet, on découvre les secrets de Mylène Farmer sur RTL, et on se fait plaisir en réécoutant tout ou partie de ses plus grands tubes. Tiens, par exemple, ce duo avec Sting, comment ils se sont rencontrés? Comment ça arrive, ça, cette belle histoire?
Alors, en fait, ils se sont rencontrés via le manager de Mylène Farmer, Thierry Suc, qui
ils
les
sont
a présentés.
Manager depuis très longtemps.
Depuis 1990.
Ouais, ça fait 25 ans.
Donc, voilà, 25 ans. Et en fait, Sting faisait une comédie musicale The Last Ship à New York, et ils se sont rencontrés en coulisses. Thierry Suc les a présentés, et Sting, alors il y a plusieurs versions, hein. Alors, l'idée viendrait de Thierry Suc ou de Sting ou de Mylène, bon voilà.
En tout cas, c'était une bonne idée.
C'était une bonne idée de dire si on faisait un duo, et Sting aurait proposé à Mylène de reprendre sa chanson Stolen Car. Voilà, parce que c'est une chanson qui a déjà été chantée par Sting, Stolen Car.
Et qu'il voulait chanter avec une femme en
et qu'il voulait à la base chanter en duo. Il n'avait pas trouvé le bon la bonne interprète pour chanter avec lui. Et là, ça lui a paru une évidence que Mylène pouvait pouvait chanter avec lui. Donc, elle a écrit des paroles en français pour sa partie.
Et voilà. Ça a été un grand tube. Encore une fois, merci beaucoup, Benoît Cachin.
Merci Benoît. À
vous. Inspiration, ce très beau livre est publié aux éditions EPA. Voilà, on vous le conseille.
Vous écoutez RTL.